Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il n'y a pas de crise séparée, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Ceci n'est pas un extrait du programme de Yannick Jadot, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux élections 2019 et non. Il s'agit là des propos du pape François, extrait de l'encyclique Laudato Si, ce texte majeur que nous parcourons depuis le début de l'année. Un texte qu'il est bon de lire et de relire, tant il donne à comprendre la crise écologique dans laquelle nous sommes plongés et nous aide à relever la tête. Lecture de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce dernier mercredi du mois. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans le teasing de ce matin, mes excuses auprès des auditeurs. Et nous sommes avec Bernard Ibal, agrégé et docteur en philosophie et président des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de nos intervenants qui nous aident à lire cette encyclique. On va rappeler, pour ceux qui prendraient cette émission au cours de route, qui n'auraient pas suivi les précédentes, le premier chapitre, c'était ce qui se passe dans notre maison, sous la plume donc du pape François. Première partie, constat. Deuxième chapitre, l'évangile de la création, un regard théologique sur la création. Troisième chapitre, la racine humaine de la crise écologique, c'était donc la dernière émission. Et ce quatrième chapitre, l'écologie intégrale. Vous me disiez en préparant l'émission, Bernard Ibal, que c'était donc le cœur de cette encyclique. C'est de fait le quatrième chapitre d'un livre qui en compte six, donc bon, pas tout à fait le cœur, mais que le pape François l'avait en partie écrit pour parler écologie intégrale. Alors expliquez-nous.
Oui, mais je crois que la raison d'être de cette encyclique, c'est bien le concept d'écologie intégrale qui est le titre du chapitre qui nous occupe ce matin. L'écologie intégrale, c'est pas l'écologie radicale. Intégrale ne veut pas dire radicale. Il y a souvent cette confusion. Intégrale signifie qu'on prend en compte toutes les dimensions de la personne humaine. Le fait qu'il ait un corps, le fait qu'il a une sensibilité, le fait qu'il a une spiritualité, le fait qu'il a un relationnel avec autrui, qu'il a un relationnel avec la nature. Alors que radical signifie qu'on devient excessif, fanatique. C'est donc un adjectif.
Et pourquoi vous faites cette précision? Parce que parfois intégral est compris comme radical. Vous pensez à des choses précises?
Je crois qu'il faudrait pas que trop de personnes, même oui, ça serait bien qu'il y en ait aucune, hein, n'interprètent intégral comme étant un discours du pape devenu fanatique d'une idée par radicalisation. Il ne s'agit pas du tout de ça. D'abord, il ne s'agit pas de violence. Et il s'agit au contraire de prendre un tout. Hein, tout est lié, comme il le dit.
Alors, on va justement le détailler, parce que du coup, il détaille différentes crises écologiques, différents types d'écologie, en imaginant que c'est la somme de tout cela qui fait cette écologie intégrale, donc l'écologie environnementale, économique, sociale, culturelle, une écologie de l'homme. Si on commence, le premier sous-chapitre, c'est donc l'écologie environnementale, économique et sociale. Il y a cette phrase que j'ai citée en introduction, il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale. Ça nous fait de prime abord, immédiatement penser à la crise des gilets jaunes, en tout cas moi c'est ce à quoi j'ai pensé. Est-ce que pour vous c'est une illustration d'actualité qui...
Oui, ça peut être une illustration négative. Je veux dire par là que le mouvement des gilets jaunes, qui par ailleurs a raison de dénoncer des travers d'injustice de la société, en ce qui concerne ce sujet, il risque bien de considérer qu'il n'y a pas qu'une seule crise, mais deux, avec des degrés divers d'importance, puisque la phrase célèbre, hein, c'est que les fins de mois sont plus importantes que la fin du monde.
Ce qui ne veut pas dire que tous les gilets jaunes se retrouvaient derrière cette phrase.
Beaucoup de gilets jaunes se sont retrouvés derrière cette phrase, parce que ce n'est pas tellement qu'ils soient anti-environnementaux, ce n'est pas du tout ça, mais c'est qu'ils sont surtout pour avoir quelque chose à la fin du mois. Et du coup, ça a donné ce qui pourrait être une bavure verbale, mais je crois que c'est plus qu'une bavure verbale, ça connote une façon de voir, mais qui n'est pas très bonne, parce que les Gilets jaunes ont eu raison d'insister sur l'immédiateté du court terme, parce qu'ils sont en danger, mais ils ont le tort, pour la même raison, c'est que du court terme. Le long terme est abandonné, quoi.
Alors, si on cite la deuxième partie de la phrase que j'ai citée en introduction, les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple qui dit ou qui illustre que les deux sont liés? Ce sont des choses qu'on a pu citer précédemment lors des différentes émissions, mais qu'est-ce qui vous vient?
Ça, il nous l'a largement dit dans les trois premiers chapitres, à savoir que ce qu'il appelle... les auditeurs s'en souviennent peut-être, l'expression est un peu compliquée, alors que le texte est facile, hein, mais bon. Il a beaucoup parlé dans les trois premiers chapitres du paradigme techno-économique. Bon, expression apparemment barbare, mais qui signifie la collusion du profit et du progrès technologique. Le progrès technologique au service du profit et le profit relançant le progrès technologique, sans se demander quel sens tout ça peut avoir. Ça, c'est le paradigme, c'est le modèle néo-capitaliste, pourrions-nous dire, qu'il dénonce avec vivacité, et il n'est pas négatif, le pape François. Il propose quelque chose, un autre modèle, un autre paradigme, et justement, c'est le paradigme de l'écologie intégrale. Et effectivement, l'économie et l'écologie sont tellement enchevêtrés que l'un des problèmes majeurs du gouvernement actuel, c'est d'arriver à faire un budget qui concilie les deux aspects, parce que on peut pas d'un côté faire de la croissance si on détruit la planète, et on peut pas se préoccuper de la planète si on entretient la pauvreté.
Alors, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, non.
Vous introduisez donc la suite de ce chapitre, c'est le paragraphe 141. Par ailleurs, la croissance économique tend à produire des automatismes et à homogénéiser en vue de simplifier les procédures et de réduire les coûts. Et c'est pourquoi une écologie économique donc est nécessaire, capable d'obliger à considérer la réalité de manière plus ample. Et le pape continue, en effet, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière le terme écologie économique? C'est tout simplement un système économique ou donc l'activité des entreprises qui tiennent compte de leur empreinte écologique, ou est-ce qu'il faut, concevoir ça plus largement?
Le pape, on le sent un peu ennuyé par quelque chose de tout à fait noble, c'est le fait qu'il fait une encyclique sur l'économie, le social et l'écologique, mais qu'en même temps, il veut pas être un donneur de leçons, et encore moins donner des solutions, politiques précises. C'est à la société civile de trouver les solutions précises, c'est pas à lui. Alors du coup, des fois, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut entendre, mais on peut prendre un exemple qu'il soutiendrait, parce que les paragraphes précédents l'ont suggéré. C'est par exemple l'économie collaborative, qui est en train de naître, qui est pas à créer, qui est à développer, qui naît avec des maladresses. Uber est une maladresse de l'économie collaborative, mais les plateformes numériques sont un apport considérable à l'économie et donnent beaucoup plus une vision d'entraide, de solidarité, considérer les objets, les choses, les produits pour leur usage et non pas pour leur propriété. C'est ça l'économie collaborative. Considérer que même dans la production, c'est plus tellement la concurrence qui va être importante, mais c'est la collaboration, puisqu'aujourd'hui, même les grandes entreprises lancent, il y a un mot anglais pour dire ça, lancent sur Internet des appels à qui aurait une idée pour résoudre tel problème technique sur telle voiture, sur telle fusée ou sur tel service.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fine pointe de ce qu'il faut entendre derrière l'écologie économique, c'est pas d'abord une question environnementale, c'est quoi? C'est une question de logique.
C'est une question de revoir la logique économique.
Et donc, si vous deviez travailler à une formulation, on va dire, plus développée que celle qui est donnée dans l'encyclique, comment vous la résumeriez, cette économie?
Je la résumerai par l'expression un peu rapide d'économie collaborative, autant dans la production que dans la consommation. Vous avez un théoricien, le premier théoricien qui a été contesté, mais il était le premier théoricien de ce genre d'économie, c'est Jeremy Rifkin, un Américain, à ce point célèbre qu'il est le seul à avoir écrit un texte qui a été voté mot pour mot par le Parlement européen, qui a beaucoup plus d'amis très haut placés, des chefs de gouvernement en Europe qu'aux États-Unis, bien qu'il soit américain, et qui est ami aussi avec le Premier ministre chinois. Bref, c'est quelqu'un qui a une grande importance, mais qui a été le premier dans les années 2010. Alors ça va vite le temps, hein. 2010 c'est pas si vieux que ça, mais 2010 c'est déjà vieux. Mais il a des sortes de disciples.
Le premier à quoi, vous dites?
Le premier à développer cette idée d'économie collaborative.
D'accord.
Voilà. Il a pris l'exemple en particulier, mais que reprend aussi le pape dans des paragraphes précédents, l'exemple de chaque logement peut être producteur d'électricité et entrer sur le réseau. Et il peut y avoir une gestion par plateforme numérique de ce réseau électrique. Donc il y a plus, c'est plus une grande société multinationale qui va être membre des GAFA, mais chacun d'entre nous va être le collaborateur de l'autre pour produire cette énergie. Alors, c'est un peu idéalisé, là je vais un peu vite dans mon propos, il a fait plusieurs livres, M. Rifkin, je ne peux pas les lire tous en même temps. Là.
Alors donc, ce premier sous-chapitre, l'écologie environnementale, économique et sociale, si on doit se pencher donc sur cette expression, l'écologie sociale, le pape a cette phrase qui est une citation de l'encyclique Caritas in Veritate du pape Benoît XVI, pape émérite, toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement, et c'est ce qu'il entendrait par l'écologie sociale. Et puis cette phrase un petit peu plus loin, tout ce qui leur porte préjudice a des effets nocifs, en l'occurrence donc il parle des personnes, enfin des relations humaines et des institutions, tout ce qui leur porte préjudice a des effets nocifs comme la perte de liberté, l'injustice et la violence. Écologie sociale, alors qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça? Il cite par exemple, à ce moment-là, au risque de nous perdre un petit peu, l'exemple de la déforestation. Alors on peut imaginer qu'on y voit du coup ce qu'est l'écologie sociale. Pourquoi est-ce que cet exemple est parlant?
Bon, d'abord, dans ce que vous avez dit, il annonce ce qu'il va dire par la suite, c'est que l'écologie déborde l'écologie en quelque sorte, que l'écologie ne se contente pas des écosystèmes naturels, que l'écologie ne peut fonctionner et être comprise que dans un ensemble qui englobe le culturel, le comportemental, enfin le relationnel, on y reviendra puisque lui-même va y revenir. L'exemple de la déforestation montre bien que il y a la périphérie de l'écologie en quelque sorte, et qu'il y a deux grands bassins forestiers sur la planète, énormes, hein, c'est le bassin du Congo et l'Amazonie. Et les deux sont violemment attaqués, d'une part par les grandes sociétés, mais c'est en passe de diminuer là, parce que des contrôles et des pressions médiatiques font que ça diminue. En revanche, les autochtones, eux aussi, ils font des brûlis importants pour rendre fertile la terre, on les comprend, hein, mais qui détruisent, par exemple, la forêt amazonienne. Et la France, je terminerai par ça, la France est directement concernée, ça semble loin, mais on est concerné par la destruction de la forêt du bassin du Congo, parce que la France est très présente en Afrique. Et en Amazonie, on en a un morceau de l'Amazonie par l'ouest de la Guyane, quoi.
Alors je citerai un autre exemple, c'est la forêt indonésienne, qui est une forêt aussi,
oui, aussi
donc,
oui.
Tropicale.
Oui.
2% de la forêt indonésienne qui est détruite par an, ça fait donc sur le dernier siècle la moitié de la forêt tropicale qui a disparu et qui pourrait disparaître intégralement en 2022. On cite souvent pour cela, entre autres, l'huile de palme qui oblige à détruire des terres pour pouvoir produire cette huile qui est largement critiquée mais aussi présente dans nos produits. Et on a l'impression quand même qu'il, si je peux me permettre pour finir, avant qu'on fasse une première pause, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas assez lu et relu, mais qu'il nous perd un peu par moment le pape François, pardon, de cette remarque. Mais de prime abord, ça ne saute pas aux yeux quand même, la question de la déforestation et l'écologie sociale. Et puis on finit par se dire, mais en fait, tout est écologique. L'environnement, la vie d'entreprise...
Oui, c'est-à-dire que la déforestation est directement écologique parce que la forêt est un puits de CO2. La forêt, physiquement, absorbe le CO2. Et l'océan aussi, d'ailleurs. Et elle joue donc un rôle dans les équilibres des gaz à effet de serre. D'où son intérêt écologique et en même temps. La dimension économique, les grandes sociétés prédatrices, mais je disais que c'était en baisse là. Et puis le côté social, les pauvres agriculteurs, c'est même pas des agriculteurs, les pauvres autochtones d'Amazonie qui faut bien qu'ils mangent, qu'ils vivent, et qui utilisent ce qu'on appelle les brûlis pour faire des terres fertiles à la place des arbres, quoi.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver donc pour cette lecture de Laudato Si. La pause musicale, comme les autres fois, ne sera pas des lectures, des extraits de cette encyclique généralement lue par Nathalie Cardon, productrice de l'émission Des Clés pour Vivre, tout simplement parce que celle-ci est malade.
Divono se.
Emmanuel Pella.
Lecture de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Dernier mercredi de chaque mois, on se penche donc sur cette encyclique écologique et sociale, écologique et intégrale du pape François, publiée en 2015. Lecture au long cours, au long de cette année, pour à l'occasion de ces rendez-vous mensuels. Et nous sommes ce mois-ci avec Bernard Ibal, agrégé et docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse, pour lire des passages et commenter le quatrième chapitre intitulé « Une écologie intégrale ». Alors si on continue dans cette lecture, le deuxième sous-chapitre de ce quatrième chapitre, c'est l'écologie culturelle. J'ai relevé une phrase et je voulais commencer par ça. Il critique, ou il désigne un peu comme ennemi ce paradigme technocratique, hein, c'est bien l'expression que vous avez citée au début de cette émission. Et il a cette phrase dans le paragraphe 144, au début de ce sous-chapitre. Les solutions purement techniques courent le risque de s'occuper des symptômes qui ne répondent pas aux problématiques les plus profondes. J'avais surtout souligné ces solutions purement techniques. Est-ce que c'est pas souvent quelque part comme ça qu'on envisage d'abord la solution à la crise écologique et surtout l'habitude qu'il ne faut pas prendre, Bernard Ibal?
Oui, il peut y avoir partiellement, il l'a dit d'ailleurs, des solutions techniques intéressantes. Hein. Il y a des recherches qui sont faites qui ont l'air d'aboutir sur la production de plancton qui permettrait aux océans d'absorber encore plus de CO2 qu'ils ne le font actuellement. C'est pas à négliger. Mais ce dont nous parle le pape, c'est de dire, attention, la technique va pas suffire. Il parle de conversion écologique. Conversion, ça veut dire métanoïa en grec, dans l'évangile, dans l'évangile écrit en grec. La conversion, c'est le changement radical d'optique. On change complètement d'optique. Hein. De même que l'ampoule électrique n'est pas un progrès de la bougie. C'est pas en faisant progresser la bougie qu'on a trouvé la lampe électrique. De même, c'est pas en arrangeant un peu le monde tel qu'il est qu'on va trouver la solution à nos problèmes. Il faut complètement changer d'optique. Et c'est ce qu'il essaie de nous dire. Et il dit d'ailleurs à ce moment-là que on est tous, c'est tous les pays du monde. C'est ça le tous. Hein. On est entré dans un consumérisme, la consommation donc, considérée comme un but. Le consumérisme mondialisé, et il parle d'homogénéisation des cultures, de disparition des cultures. Et il disait au paragraphe, je crois, 139, la disparition d'une culture est encore plus grave que la disparition d'une espèce végétale ou animale. Le fait est que l'évolution actuelle au 21e siècle de la planète, c'est que la mondialisation est synonyme d'occidentalisation. Il faut pas, par exemple, mettre en opposition la Chine et les États-Unis pour dire il y a un modèle chinois, il y a un modèle américain. C'est le même modèle. C'est-à-dire que le modèle chinois classique, modèle mandarinal par exemple, ou communiste plus récent, n'est pas du tout le modèle qui entre en concurrence avec les États-Unis. Celui qui entre en concurrence avec les États-Unis, c'est un modèle capitaliste pur et dur, c'est celui de Shanghai, qui copie celui de Hong Kong. Donc,
Alors, je vais citer le passage. La vision consumériste, c'est paragraphe 144, ouais. La vision consumériste de l'être humain, encouragée par les engrenages de l'économie globalisée actuelle, tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l'immense variété culturelle qui est un trésor de l'humanité. Et le paragraphe 145, la disparition d'une culture peut être aussi grave ou plus grave 145, alors, que la disparition d'une espèce animale ou végétale. Alors il cite pour ça, par exemple, les aborigènes. J'ai noté que lors de la COP21, deux Indiens Guarami, qui est donc, semble-t-il, la principale tribu indienne de l'Amazonie, étaient venus en France, à Paris, pour expliquer en fait ce qu'ils vivaient, en l'occurrence donc la disparition de leur peuple. Ces Indiens Guarami qui sont expropriés parce que des grandes entreprises ou des propriétaires terriens prennent leurs terres, ils sont réduits à travailler dans des situations proches de l'esclavage, ils sont tués quand ils s'opposent. Bref, en l'occurrence, enfin ça c'est un exemple parlant. Certains parlent même de génocide ou d'ethnocide, ai-je lu.
Oui, le mois dernier, il y a 3 semaines ou 1 mois, les aborigènes d'Australie cette fois-ci, mais ça complète ce que vous venez de dire, les aborigènes d'Australie, qui ont été très 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 maltraités dans l'histoire de l'Australie, le gouvernement australien a présenté officiellement ses excuses, a demandé pardon. C'est récent, 3 semaines, 1 mois, aux aborigènes. Il aurait pu le faire plus tôt d'ailleurs. Enfin, c'est déjà pas mal qu'il ait fait ces temps-ci. Il essaye de corriger le tir, le gouvernement australien, là, actuellement. Mais il faut faire très attention parce que on a tendance, en France et ailleurs, à considérer que, oui, on va protéger les cultures traditionnelles, mais ce sont quand même des cultures primitives. La preuve, c'est qu'il faut leur apporter des médicaments, il faut, etc. Faisons très très attention, parce que il y a des valeurs considérables que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus dans ces cultures. Par exemple, la conception de la mort, c'est quand même très très important, la conception de la mort. Elle est beaucoup moins douloureuse et angoissante dans la plupart des cultures africaines, par exemple, que dans les cultures européennes. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est la complexité des problèmes, c'est que si vous commencez à apporter les médicaments, si vous commencez à apporter des techniques agricoles, si vous commencez à apporter l'école, vous entrez dans la civilisation occidentale obligatoirement. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler, non pas quand on veut, mais à 8 heures, jusqu'à midi, de 14 heures jusqu'à 18 heures, et c'est plus du tout la même civilisation.
Est-il imaginable que des civilisations, on va dire, radicalement différentes coexistent parfois, vous citez l'Australie,
ben, j'y crois pas beaucoup,
en l'espace de 50 ou 100 kilomètres de distance.
J'y crois pas beaucoup. Ce qu'il faut, c'est sauvegarder le plus possible les originalités culturelles de toutes les cultures, c'est ce que dit le pape d'ailleurs, mais du fait que tout est lié, c'est une des idées principales du pape François, du fait que tout est lié, on ne pourra pas mettre d'un côté la culture spirituelle de ces civilisations, on ne pourra pas la rendre indépendante de toutes les autres formes de civilisation que sont l'économie, le droit. À partir du moment où vous modifiez quelque chose, vous modifiez tout.
Quand ces civilisations sont aussi souvent des civilisations animistes, en l'occurrence.
Oui, oui.
Très différentes, évidemment, du christianisme, ou enfin du fond culturel chrétien de la civilisation occidentale.
Tout à fait. Mais justement, quand on apporte, j'osais pas le dire, mais apporter le christianisme, c'est notre devoir. Mais ça change complètement, quand même. La civilisation traditionnelle, quand même.
Alors Bernard Ribal, au risque de vous obliger à vous répéter, on a l'impression qu'en fait le pape François, comme un oignon, il prend les différentes couches de l'écologie, il part de la question environnementale et puis donc il rentre dans différentes dimensions, les a citées, économiques, sociales, maintenant c'est culturel. Si on devait redire comme un leitmotiv en fait, qu'est-ce qu'on trouve au cœur de l'oignon ? Est-ce que la question environnementale, donc il faut avoir une vision intégrale et intégrer toutes les couches, mais au fond, qu'est-ce qui fait le cœur de cette écologie,
au moins de ce passage, et qui est peut-être le cœur général, c'est qu'il faut réinventer une qualité de vie. Ce n'est pas tellement une histoire d'écosystème. Il y a une histoire d'écosystème. Et le chapitre 1 a bien montré qu'il y avait des problèmes d'écosystème. Mais là, il y a plus que les écosystèmes. Il faut complètement réinventer la qualité de vie et prendre des exemples précis. Si vous vivez dans un logement où la cage d'escalier est complètement dévastée, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez presque pas, parce qu'il dit qu'il y avait personne qui arrive, il écrit.
Si je peux me permettre, là, vous parler d'un autre point, c'est donc l'écologie de la vie quotidienne. Oui. On va venir juste après, parce qu'on imagine que au cœur de l'encyclique, puisque vous dites que l'écologie intégrale est le cœur de son encyclique, ce 4e chapitre, il y a autre chose que réinventer une qualité de vie au quotidien. En fait, qu'est-ce qui est au cœur, puisqu'il faut prendre toutes les dimensions? C'est quoi? C'est l'homme, ce sont les plus pauvres. Même si on doit du coup redécouvrir le respect que l'on doit, ou la valeur intrinsèque de chacune des créatures de Dieu.
Si on veut résumer par les mots même du pape François, ce qu'il veut dire dans ce livre et particulièrement dans ce chapitre, j'invite les auditeurs à aller au paragraphe 210 s'ils bénéficient de la, du livre chez eux, où il dit, et là il y a tout, d'un seul coup il y a tout là, étendre aux différents niveaux de l'équilibre écologique, deux points, au niveau interne avec soi-même, c'est-à-dire équilibre avec soi-même au niveau interne. Et le corps en fait partie. Au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu. C'est là le cœur. C'est là le cœur de l'écologie intégrale. Et là, en ce moment, là, il entre dans les détails. Alors, entrant dans les détails, on risque de perdre la synthèse. C'est un petit peu ce que vous étiez en train de dire. On ne sait plus trop où on en est. On parle de tout et de rien. En fait, non. Là, il est dans les détails et assez souvent, il refait des synthèses. Le paragraphe 210 fait partie de ces paragraphes synthèses. Là, on est dans un paragraphe détail.
Donc, si je devais le redire avec mes mots, c'est travailler en fait à réordonner toutes les dimensions de l'homme et prendre conscience que voilà. C'est la relation à Dieu, la relation aux autres, à soi-même, mais aussi à la nature qui
est à... Il nous invite, par exemple, à parler du logement, mais si on passe, nous, 5 minutes à parler du logement, on trahit un peu le livre, dans la mesure où le logement n'est qu'une infime partie de la question.
Alors, on va quand même en parler, puisque donc ce troisième sous-chapitre, c'est l'écologie de la vie quotidienne, où le pape François a l'air évidemment, il connaît la vie. Il parle, entre autres, de la sensation, c'est le paragraphe 148, la sensation d'asphyxie produite par l'entassement dans des résidences et dans des espaces à haute densité de population. La vie sociale... bref, il décrit un peu la vie quotidienne d'un certain nombre de personnes. Il parle, entre autres, donc de la question du logement, du manque de logement, en disant que c'est une question centrale de l'écologie humaine. Je me suis ressorti quelques chiffres, ne serait-ce que pour la France. Ce sont des chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui était cité entre autres dans le journal La Croix donc en janvier 2017. 4 millions de mal logés en France. Ça veut dire quoi des mal logés? Ce sont des logements sans confort,
insalubres,
surpeuplement, hébergement de tiers. Il y a en plus de ça, donc ça c'est 4 millions de mal logés. Et puis il y a plus de 12 millions selon la Fondation Abbé Pierre en France de personnes qui sont en situation de fragilité par rapport au logement, c'est-à-dire effort financier excessif, surpopulation modérée ou qui ont froid et qui n'arrivent pas à se chauffer. Il rentre dans le détail, le pape François, mais c'est aussi ça.
C'est aussi ça. Parce que tout étant lié, je me répète, mais lui aussi il le répète, tout étant lié, il faut faire très attention aux réformes qu'on met en place. Par exemple, et on est en plein dans le sujet, quand on lutte pour la transition énergétique, il faut se poser la question combien ça va coûter pour les plus pauvres d'entre nous. Est-ce qu'on ne va pas aggraver la précarité énergétique? Voilà des questions très pertinentes, parce que on peut avoir de bonnes idées, oui, la transition énergétique, oui, bien sûr, mais ça va coûter combien? Alors, on peut faire des subventions, mais les subventions peuvent pas être infinies, hein. Le subvention, c'est le budget, c'est le contribuable, c'est pas l'infini. Mais ce que je voudrais mettre en lumière ici, c'est que il n'y a pas de solution idéologique, c'est-à-dire clé en main. Il y a que des solutions qui sont dans l'ordre de la complexité, c'est-à-dire où chaque médaille a son revers, quoi. Et on vient de voir que la transition écologique pouvait aggraver la précarité énergétique.
Bernard Ibal, est-ce que ça donne pas, avant qu'on fasse une deuxième pause, ça donne pas raison à Nicolas Hulot et à son coup de gueule et à sa démission? Qui, dans son coup de gueule sur France Inter, et puis après, lors de son mot de départ, a laissé entendre en fait qu'il faudrait que ça soit toute la politique publique, aujourd'hui, en l'occurrence de la France, qui soit pensée de manière écologique. Est-ce que vous...
Oui.
Comment vous réagissez à cette remarque?
Oui, il a tout à fait raison, et j'ai aucune remarque à faire de critique sur ce qu'il a dit à ce moment-là. La seule critique que je ferais, c'est pas sur le texte, c'est pas sur le discours, c'est pas sur les mots, c'est pas sur les idées, c'est pas sur sa protestation. C'est le fait que il est en train de prouver ce qu'il fallait pas prouver, à savoir que quand on est aux manettes, les problèmes changent et qu'on peut plus faire ce qu'on veut exactement par rapport aux idées qu'on avait. Et ça, il est très grave de prouver à l'ensemble de la population, des citoyens, que les idées sont très belles sur le papier, mais dès qu'on est au pouvoir, ça marche plus. Et il faut au contraire essayer de montrer que quand on a le pouvoir, ça peut marcher. Et ça, il ne l'a pas montré.
Voilà, mais à l'entendre, ça n'était pas de son fait.
Oui, mais enfin quand même, moi je ne suis pas ministre, hein, mais lui, il l'était, lui.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer la lecture de ce quatrième chapitre intitulé « L'écologie intégrale » où le pape François, dans la fin de ce chapitre, parle de l'écologie de l'homme.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Laudato aussi, c'est pour rappel et pour ceux qui nous prendraient en cours de route, donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, lecture et commentaire du quatrième chapitre intitulé « L'écologie intégrale » avec Bernard Ibal, agrégé et docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse. Si on continue la lecture de ce chapitre, donc on arrive à un autre sous-chapitre, après l'écologie environnementale, économique, sociale, culturelle, maintenant l'écologie de l'homme. Je cite paragraphe 155, « L'écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond, la relation de la vie de l'être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne. » Et le pape François cite à nouveau le pape Benoît XVI, pape émérite. Benoît XVI affirmait qu'il existe une écologie de l'homme. Donc on continue à enlever les feuilles de l'oignon et donc on arrive, semble-t-il, au cœur qui est l'écologie de l'homme. Alors oui. comment l'expliquer cette écologie de l'homme ?
D'abord, il insiste bien sur le fait que l'homme fait partie de la nature. Il est une nature. Il est nature. Il n'est pas que nature puisqu'il y a une dimension divine en lui, mais il est nature. Il l'écrit.
L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté.
Exactement, c'est ce à quoi je faisais donc allusion.
Citation de Benoît XVI.
Oui, oui. Le corps a une grande importance dans l'anthropologie, parce que le corps, c'est ma relation aux autres et ma relation au monde. Je ne parle, je n'entends, je ne sens que par le corps. C'est pas le corps qui dirige tout, mais c'est par lui qu'on est en relation. Et même lorsque on aura un corps de gloire, comme dit saint Paul, après avoir eu un corps de misère, qui est celui d'ici-bas, il y aura toujours un corps. Le corps est nécessaire à cette dimension relationnelle de l'homme. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est une parenthèse, alors il n'y a pas mis en parenthèse, il n'y a pas ouverture et fermeture de la parenthèse, mais ça ressemble à une parenthèse, quand il dit au même paragraphe 155 que vous venez de citer, que, en revanche, une logique de domination de son corps peut devenir parfois une logique subtile de domination de la création tout entière. Il y a donc une réserve, et une réserve nouvelle dans l'Église, hein. Parce que très souvent l'Église a insisté sur la maîtrise du corps.
Et la maîtrise et la domination, c'est pas tout à fait la même chose quand même. On imagine qu'on fait tout de suite, on pense au transhumanisme et autres.
Eh ben oui, ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est ce à quoi il fait très indirectement allusion. On peut aller là vers le transhumanisme dans l'excès d'une philosophie de la maîtrise du corps. On peut ajouter au corps humain des tas de substances ou d'électronique ou d'informatique ou de numérique qui vont nous faire tendre vers le transhumanisme et puis vers une philosophie qui est déjà un peu trop la nôtre, c'est celle d'une mauvaise interprétation de prospérer, multipliez-vous et dominez la création de la Genèse, qui est pourtant tempérée par le deuxième récit qui dit que l'homme est chargé d'entretenir la nature et non pas de la détruire. Mais on ne lit pas le deuxième récit. Et surtout Descartes, hein, qui nous dit que par la science et la technique, on va devenir maître et possesseur de l'univers.
Et où se fait la bascule pour le corps? À quel moment on passe, on va dire, d'une juste maîtrise des excès, parfois des passions du corps, à la domination?
Bien, je vais
si
répondre,
vous deviez essayer de lire entre les lignes de cette encyclique.
Je vais répondre de façon tangentielle un peu. C'est que on voit aujourd'hui les médecins s'effrayer un peu de la sportivité accrue de la population. Pendant longtemps, les médecins ont dit « faites du sport ». Et aujourd'hui, ils ont tendance à mettre des bémols. Alors bien sûr qu'il faut faire du sport à minima. Mais le sport poussé aux extrêmes rend malade, quoi, et destructeur, et non pas constructeur. Et pourtant, on est très fiers d'une maîtrise acquise par le sport. Mais cette maîtrise n'a pas son revers, la destruction. C'est pour ça qu'il ne faut pas, là encore, ne transformons pas en idéologie ce qui est une bonne intention. La différence, c'est qu'il faut expérimenter avant d'affirmer. Et il faut savoir que ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. C'est le sens du bien commun, d'ailleurs. Hein. Le bien commun que défend l'Église n'est pas l'intérêt général, entre autres parce que il s'agit d'épanouir chacun en fonction de ce qu'il est, et non pas chacun de la même façon.
Alors, très bonne transition. Si l'on continue, donc, on aurait pu dire aussi à propos du corps, citer cette phrase, « La valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent. » Évidemment, le pape François rappelle là une grande conviction de grande réalité de l'anthropologie chrétienne.
Bien sûr.
Mais le bien commun, donc le pape François en parle. Et il finit en fait ce chapitre par deux points, le principe du bien commun et la justice entre générations. Donc on sent qu'il clôt ce chapitre 4 sur l'écologie intégrale en rappelant deux notions importantes. Pour le principe du bien commun, je redonne toute la citation extraite, en l'occurrence donc de Gaudium et Spes.
Et qui est la même que Mater et Magistrat.
C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres
voilà,
d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors là, on renvoie...
C'est ce que j'ai essayé de dire à l'instant sur le fait que la différence entre l'intérêt général et le bien commun, elle est là. Quoi.
Pourquoi est-ce qu'il finit par cette notion, par ces deux notions, le principe du bien commun et la justice entre générations, Bernard Ribal, à la fin de ce chapitre
Parce que je crois qu'il y a là un problème important. Pour conforter son idée sur le bien commun et ne pas laisser entendre que c'est simplement un principe de l'enseignement social chrétien, ce qui serait déjà beaucoup, il y a une dame, j'arrive difficilement à prononcer son nom, mais je vais essayer de le faire, Elinor Ostrom, c'est elle est suédoise.
Prix Nobel.
Voilà, prix Nobel d'économie 2009. Qui a énormément travaillé
sur les communs.
Et d'ailleurs, elle a eu un prix Nobel pour ça sur l'économie du bien commun. Donc l'idée du pape est pas une idée chimérique. Il peut y avoir une économie du bien commun dans le sens où il en définit le principe en répétant Gaudium et Spes, qui répétait déjà Mater et Magistrat.
Alors, si je peux me permettre, elle a aussi travaillé sur ce qu'on appelle les communs. Qui est comme une troisième réalité de la propriété, qui n'est ni la propriété privée ni la propriété publique, mais des propriétés qui sont les communs, ce qu'on appelle les communs.
Enfin, bon, oui.
On a fait des émissions
et
là-dessus.
Et on retrouve le concept chrétien de destination universelle des biens. Là. C'est-à-dire que tous les biens sont communs, finalement, sont en partie communs. Quoi.
À la fin de ce quatrième chapitre, le pape François a des adresses vigoureuses à notre adresse à tous, hein, à tous les lecteurs, et puis voilà, on imagine au-delà des lecteurs. C'est pourquoi il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. C'est un drame pour nous-mêmes parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. Alors, je me suis aussi ressorti donc des extraits, des apostrophes de cette fameuse Greta Thunberg, j'espère que je prononce correctement, qui a été cette égérie donc de la COP24, jeune suédoise de 16 ans à l'occasion de la COP24, qui a admonesté les puissants de ce monde. Vous n'avez plus d'excuses et nous n'avons plus de temps. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre, où je ne veux pas de votre espoir, mais je veux que vous commenciez à paniquer. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces apostrophes de cette jeune Greta Thunberg qui mène, entre autres, une grève climatique depuis maintenant, je crois, quelques temps?
Oui, je sais qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui attendent que je m'enthousiasme pour cette jeune personne. Effectivement, elle a 15-16 ans, hein. Effectivement, elle est sans doute surdouée du point de vue intellectuel. Elle est extrêmement précise, sympathique et généreuse. Elle a donc toutes les qualités. Sauf que...
Beaucoup, en tout cas, mais oui.
Elle est extrémiste, quoi. Hein, paniquée, par exemple, vous l'avez cité. Elle donne dans le catastrophisme. Et là, il faudrait quand même mettre des bémols, et je crois pas que ça serve la cause. D'abord, il n'est peut-être pas très moral d'utiliser au niveau international une jeune fille de 15-16 ans. On n'arrête pas de dire qu'il faut pas instrumentaliser les jeunes et les enfants, mais quand ça nous arrange, on instrumentalise au maximum. Non, il faut pas instrumentaliser les 15-16 ans. Et là, en plus, elle est abusive. On sait, par exemple, je vais citer que deux exemples, hein, mais Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, qui a fait un film très célèbre, et qui a eu le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, sur l'écologie, annonce lors de la remise de son prix Nobel qu'il ne va plus y avoir de glace au pôle Nord dans 10 ans. On est en 2007, 2017, c'est 10 ans après, il y a toujours de la glace au pôle Nord, la moins, mais il y a toujours de la glace au pôle Nord. Autre exemple, il y aurait, on n'aurait jamais eu autant de catastrophes naturelles, d'inondations, de cataclysmes qu'en ce moment. On sait scientifiquement, et je demande aux personnes de se référer par exemple au site qui s'appelle Science... comment il s'appelle ce site?
C'est pas grave, continuez votre propos, vous le trouverez à la fin de l'émission.
Voilà, oui. En fait, sur Internet, on trouve plusieurs sites scientifiques qui montrent que les relevés de la première moitié du XXe siècle montrent qu'il y a plus de catastrophes naturelles qu'en ce moment. Donc, alors, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, là. Hein. Au contraire, depuis que je parle de Laudato si, je suis tout à fait d'accord avec le pape sur le fait qu'il a un problème majeur.
Il dit quand même la chose suivante, hein, paragraphe 161, « Les prévisions catastrophistes, en l'occurrence, ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Le style de vie actuel est insoutenable. »
Oui, là, c'est là
il
où...
Il parle bien de catastrophisme.
Oui, oui, mais là j'ai quelques bémols. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Là. On ne peut pas approuver le catastrophisme, d'abord parce qu'il est démobilisateur, il est maladroit, et qu'il est loin d'être prouvé, quoi, ce catastrophisme. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, aujourd'hui, au moment où nous parlons, à Paris et à Lille... Il y a une pollution telle qu'on peut à peine respirer, quoi, aujourd'hui, là. Et donc, il y a urgence de faire quelque chose. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais on n'est pas obligé d'aller dans une alarme. Et puis même, la direction n'est pas forcément la bonne. Parce que je mettrais une petite différence. C'est que lutter contre le réchauffement climatique... Oui, mais de l'aveu même des plus grands chercheurs, on risque bien de ne pas y arriver, de ne pas arriver au résultat. Je crois qu'il faut mettre tous les moyens sur la lutte contre le réchauffement climatique, d'accord, mais aussi et surtout sur l'adaptation au réchauffement climatique. Parce que de toute façon, on va l'avoir, qu'il soit d'origine humaine ou pas d'origine humaine, on va l'avoir.
On aurait pu citer pour finir aussi ces questions que le pape François pose presque à la fin de ce chapitre 4, et on finira par ça. Pourquoi passons-nous en ce monde? Pourquoi venons-nous à cette vie? Pourquoi travaillons-nous et luttons-nous? Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous? Voilà autour de questions existentielles que pape François pose dans cette encyclique, je le rappelle, Loué sois-tu, Laudato si.
Là, c'est capital.
Sur la sauvegarde de la maison commune.
On n'a pas le temps,
mais on en reparlera. Voilà. Merci beaucoup, Bernard Ribal, d'être venu au micro de cette émission ce matin pour cette lecture et commentaire de cette encyclique du pape François. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.